Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Oui, Chantal Doré, de retour au micro. Et cette fois-ci, chers auditeurs, on s'en va complètement ailleurs. Quoique, on va sûrement faire des parallèles intéressants parce que si les chiens d'assistance viennent en aide à différents types de personnes qui ont des enjeux, il y a des handicaps qui sont causés malheureusement par la guerre, par des dégâts effroyables que font les mines antipersonnelles. Et il y a des organismes qui sont présents sur le terrain pour aider à sensibiliser, à les reconnaître et aussi à faire de la réhabilitation quand malheureusement ben, le drame se produit. Et nous avons l'occasion de recevoir en studio en fait, la directrice générale de l'équipe canadienne d'humanité et inclusion, qui est un organisme international. Bonjour, Anne.
Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Alors, humanité et inclusion, c'est expliquez-nous la portée, parce qu'on dit un organisme international, vous êtes vraiment présent dans plusieurs pays.
Oui, en effet, on est présent dans 60 pays à travers le monde. Wow. Notre mission est concentrée sur trois grandes composantes. Alors, premièrement, le développement qui est inclusif des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Deuxièmement, la réponse à des crises humanitaires, donc l'aide humanitaire, mais encore une fois avec cette approche très inclusive des personnes en situation de handicap. Et finalement, la réduction de la violence armée. Et c'est là où on travaille avec le déminage, l'assistance aux victimes, la réduction des risques, la transformation des conflits, justement dans cette perspective de réduire les handicaps qui sont créés par la guerre. Et ces trois composantes peuvent sembler un peu différentes et non reliées, mais au fait, ça revient à la naissance de l'organisme qui, il y a 40 ans, a été fondé par deux médecins de Médecins sans frontières.
Ah oui, d'accord.
Et ces médecins-là travaillaient alors au Cambodge, à la frontière de la Thaïlande, et il y avait toute la crise des mines antipersonnelles. Et donc, à tous les jours, ils avaient les fondateurs, ils parlent d'un balai des ambulances. Moi, je dirais plutôt une vague d'ambulances qui entre. Il faut recoudre ces gens, sauver des vies, les faire sortir le plus rapidement possible parce qu'il y a un autre groupe qui va arriver d'une minute à l'autre. Et donc, en voyant ces gens partir vers leur village, ayant perdu un bras, une jambe ou plusieurs même membres de leur corps, et sachant qu'ils ne pouvaient pas retourner et vivre la même vie digne et continuer leur métier, continuer d'être agriculteur ou agricultrice, maman ou papa de famille. Donc, ils se sont dit, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc, on est vraiment né dans ces trois axes. L'urgence, la violence armée qui était la crise des mines antipersonnelles et par la suite, chercher une réponse aux personnes en situation de handicap, initialement créées par les armes de guerre et avec le temps plus largement.
Donc, ces médecins-là qui étaient vraiment en territoire d'urgence se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire après pour aider davantage parce qu'eux agissent vraiment dans le feu de l'action. Mais j'imagine que ça devait être difficile justement de voir les gens qui retournent et de ne pas pouvoir les aider davantage.
Exactement. Il n'y avait pas de service de réa, de prothèse, de quoi que ce soit pour les gens qui retournaient chez eux. Initialement, l'organisation a cherché des prothèses qui étaient faites de différents matériaux locaux, du bambou, et même le matériel de guerre parfois était réutilisé.
Quelle ironie!
Oui, pour construire des prothèses. Et éventuellement, cette technologie a évolué. Aujourd'hui, on fait même l'impression 3D dans des camps de réfugiés, notamment en Ouganda. Qui est vraiment exceptionnel et très important, surtout pour les enfants qui doivent avoir des nouvelles prothèses au fur et à mesure que leur corps grandit. Donc, ça permet d'offrir des prothèses sur mesure à proximité. Donc, on profite beaucoup de ces nouvelles technologies.
Spontanément, quand j'ai entendu parler de votre organisation, bon, je comprends que l'ancien nom, c'était Handicap International. Je me suis demandé s'il y avait des liens. Je me rappelle, plus jeune, qu'on recevait à la maison un dépliant des amputés de guerre. C'est spontanément le lien que j'ai fait, mais peut-être, est-ce que c'est une autre organisation similaire ou vous êtes partenaire? C'est quoi les liens?
C'est une différente organisation, c'est sûr qu'on fait partie d'un tissu social de différentes organisations avec des missions similaires. Mais ici, c'est vraiment deux organisations séparées.
D'accord.
Et nous, on œuvre plutôt à l'international, tandis qu'eux, c'est plutôt national au Canada.
Ah, d'accord. Un peu quand les gens reviennent ici. Donc, on comprend que la naissance, c'est des médecins, de médecins sans frontières. D'abord, peut-être cadrer une mine antipersonnelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne?
Je crois qu'on a tous dans notre imaginaire...
Oui, des films de guerre, là, ouais.
Oui, alors, mais souvent, on s'imagine peut-être dans la jungle ou dans un champ d'agriculteurs où quelqu'un marche sur une mine et là, se fait exploser, qui est toujours la réalité. Les mines sont toujours cachées dans le sol. Mais la technologie a beaucoup évolué. Malheureusement. Et donc...
Pour le bien ou pour le mal, hein? Ça dépend toujours qui l'utilise. Ouais. Si on parlait d'imprimantes 3D, j'entendais en m'en venant en studio que maintenant on fait des armes aussi, qu'en Ukraine, il y en a qui se débrouillent, qui font des armes avec une imprimante 3D.
Ah, c'est incroyable. Oui, en effet, la technologie aussi nous permet d'être beaucoup plus... Elle devient de plus en plus meurtrière, finalement, dans ces contextes de guerre. Et c'est le cas aussi pour les mines antipersonnelles. Alors, ce qu'on voit maintenant, justement, en Ukraine, avec la guerre, l'invasion de la Russie, les mines antipersonnelles russes sont très sophistiquées. Donc, au lieu d'attendre que la personne pile sur la mine, elles sentent les vibrations de la personne qui s'approche et se projettent dans les airs pour exploser et donc faire le plus de dommages possible au corps, au visage, aux organes principaux du corps. Et donc, c'est fait non seulement pour tuer, c'est fait pour assurer les blessures les plus graves, mais aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est une arme pour terroriser la population, pour briser leur esprit, parce que tous ces corps mutilés, toutes ces vies brisées...
C'est terrible ce que vous nous racontez, c'est vraiment terrible.
Oui, c'est très triste ce qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, il y a autant de mines en Russie qui sont en train d'utiliser en Ukraine, en guerre, qu'il y a de personnes en Ukraine. Alors, une mine pour une personne.
Une mine pour une personne.
Oui. Et puis il y a d'autres armes de guerre contre lesquelles on a lutté. Bien sûr, les mines antipersonnelles, on est bien connu parce qu'on a gagné le prix Nobel de la paix en raison de notre plaidoyer qui a amené le traité d'Ottawa. Le traité d'Ottawa qui avait été sous le leadership du Canada de Lloyd Axworthy, qui était le ministre des Affaires étrangères dans le temps. On était une coalition de plusieurs organisations qui luttaient contre les mines antipersonnelles et qui cherchait vraiment à l'élimination de l'utilisation, de la création, de la vente de ces mines.
Puis là, dans le contexte de la situation en Ukraine, en quoi ce traité-là influence ou pas?
La Russie n'a pas signé le traité.
Okay. D'accord.
Oui, donc c'est ça qui est difficile souvent dans ces situations-là. L'Ukraine est signataire. Il y a aussi les bombes à sous-munitions. Il y a un traité, le traité d'Oslo, qui est sur les bombes à sous-munitions, qui, elles aussi, sont très meurtrières. Souvent, elles n'explosent pas au moment du lancement là, sur le territoire. Et donc, elles restent là en attendant qu'un enfant la ramasse. Et d'ailleurs, pour retourner vers la Russie et ses nouvelles technologies, les mines aussi ne sont pas seulement enfouies dans le sol, mais on les retrouve dans les murs, dans les appartements, dans les frigidaires, dans des jouets d'enfants, ou bien elles sont fabriquées pour qu'elles
ressortent. Comment elles se retrouvent là?
Elles sont placées par les soldats russes pour que quand la population revient, elle est encore une fois terrorisée et que les lieux deviennent complètement inhabitables. Et c'est vraiment... C'est très décourageant, mais il y a une lueur d'espoir. Puis il y a un groupe de pays qui commence à parler plus ouvertement contre l'utilisation des mines et qui ont parlé très fortement contre les États-Unis, qui ont fait un transfert de bombes à sous-munitions en Ukraine. C'est le Cambodge, c'est le Laos. C'est des pays qui, eux, depuis 40 ans, cherchent à déminer, décontaminer leur territoire. Et ils savent que l'Ukraine va devoir attendre des décennies avant que son territoire soit libéré des mines.
Bien, je lisais justement dans la recherche qu'il n'y a jamais un pays qui a été aussi contaminé en 50 ans.
Exactement. Mm. Et aussi, entre la guerre en Ukraine et à Gaza, entre Israël et Hamas,
ouais.
Jamais depuis 20 ans avons-nous eu autant de morts et de blessés qu'en 2023.
Est-ce que c'est la technologie encore qui permet ça ou...
En partie, c'est la technologie. C'est aussi la densité des populations dans des milieux densément peuplés, dans des milieux urbains. Alors là, on le voit beaucoup, c'est très clair à Gaza, où on a des populations qui sont regroupées dans le sud du pays et ensuite qui sont bombardées avec des bombes qu'on dit, c'est pas des bombes intelligentes, c'est des bombes qui bombardent tout simplement. Et donc, les immeubles sont détruits, sont rasés. Les personnes sont blessées. C'est une dévastation totale. Et donc, aujourd'hui, on compte au-dessus de 20 000 morts à Gaza et près de 65 000 blessés.
Donc, malheureusement, humanité et inclusion a beaucoup de travail.
Oui, on a beaucoup de travail. Donc, on est à Gaza depuis 1996. Justement, on offrait des projets plus à long terme à ce moment-là sur les droits des personnes en situation de handicap, la réal, le travail avec les services.
Quand vous dites la réal, c'est réhabilitation?
Oui, la réhabilitation. Ouais. Pardon, le jargon, c'est horrible. La réhabilitation, la réadaptation. Donc, on travaillait avec les différents services de santé. Mais le 7 octobre, avec l'intensification des violences, on a rapidement adapté nos activités sur le terrain pour répondre à la crise. Par chance, on avait déjà 5 entrepôts avec des stocks humanitaires. Donc, on a pu tout de suite commencer à distribuer des aides à mobilité, des kits de premiers soins, de dignité, des couvertures pour l'hiver qui approchait. Et donc, des kits d'hygiène, tu sais, différentes choses dont on a de besoin à tous les jours. Mais très rapidement, on n'avait plus de stock. Puis comme on le lit dans les journaux, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à faire rentrer des camions à Gaza et à faire rentrer du personnel. Donc, c'est toujours notre équipe locale qui travaille avec des bénévoles et des partenaires locaux qui est maintenant déplacée dans le sud. Et on travaille avec... 110 refuges où les 110 refuges où les
gens... À quel endroit?
Dans le sud.
Dans le sud?
Oui, à Rafah, principalement.
110 refuges, oui.
À Rafah, où on a annoncé les bombardements ce matin. Et d'ailleurs, juste pour expliquer à quel point c'est dangereux pour les travailleurs humanitaires, nos bureaux ont été rasés la semaine dernière. On a appris ça... seulement la semaine dernière...
Avez-vous perdu des membres de l'équipe?
Heureusement, non. Les bureaux avaient été vidés. Ils étaient un peu plus dans le nord du pays. On espérait retourner dans cette zone une fois que ce soit plus sécuritaire. Mais ça nous... C'est préoccupant quand des bureaux humanitaires sont bombardés. C'est contre la loi internationale humanitaire. Il y avait également des bureaux du gouvernement belge dans le même immeuble. Donc, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe et comment est-ce possible que ces bureaux-là soient ciblés, s'ils ont été ciblés de cette façon.
Donc, on a beau avoir tous les traités du monde si on ne s'engage pas à les respecter. On fait une courte pause, Anne, et on poursuit la discussion. De retour à l'émission Les héros anonymes, Chantal Doré au micro. Je suis avec la directrice générale du chapitre canadien, de l'équipe canadienne d'humanité et inclusion, Anne Delorme. Et je lui demandais pendant la pause, comment vous faites pour rester résiliente à travailler là-dedans? Parce que, tu sais, nous qui ne travaillons pas dans ces domaines-là, on entend ces nouvelles-là, ça nous fait sentir beaucoup d'impuissance, mais on se remet dans notre travail, je dirais, ordinaire. Puis il y a toujours ce déchirement-là, mais vous êtes dedans à 100%, vous êtes au cœur. Comment on fait pour garder une santé mentale dans tout ça?
Ah, c'est une très bonne question. Puis en effet, nos équipes locales particulièrement qui font le plus gros du travail sont épuisées maintenant. Hein. Ça fait plus de 100 jours à Gaza. Elles sont épuisées, mais elles sont solidaires. Et je pense que le peuple québécois aussi est solidaire. Tu sais, les Canadiens sont solidaires avec ce qui se passe à Gaza, avec ce qui se passe en Ukraine. Et on veut aider. On ne sait pas comment nécessairement. Moi, ça m'arrive souvent qu'on reçoit des appels et on dit, avez-vous besoin de bénévoles? Je dis, oh oui, on veut toujours avoir des bénévoles dans nos bureaux chez Hachi Canada. Mais c'est vraiment des spécialistes qu'on envoie dans ces contextes très dangereux. Mais je comprends ce désir de vouloir aider. Et il y a plusieurs façons qu'on peut aider. C'est sûr que nous, on cherche toujours du financement pour aider les gens sur la programmation à Gaza, en Ukraine et à travers le monde. Mais aussi, on a des campagnes pour essayer de réduire la violence et ça fait partie de comment les gens peuvent s'aider.
Bien, je vois d'ailleurs que vous portez, on est à la radio, mais Anne porte un T-shirt noir sur lequel il est écrit Stop Bombing Civilians. Donc, c'est vraiment une campagne directe. Et vous avez une petite étoile à Bombing, pourquoi?
Au fait, c'est pas une étoile, c'est une explosion.
Ah, d'accord.
Alors, Stop Bombing, qui est d'arrêter de bombarder les bombardements des civils. Donc, le Canada et 85 autres pays ont signé une déclaration qu'on appelle aussi la déclaration IWIPA, qui en anglais essentiellement veut dire le bombardement des civils dans des zones densément peuplées. Et donc, comme je le disais, au niveau de Gaza ou en Ukraine, on voit à quel point c'est une technique de guerre qui crée beaucoup, beaucoup de personnes tuées et blessées. Et donc, ce qu'on veut voir avec cette pétition, on invite les gens à la signer, c'est que le Canada utilise son influence sur la scène internationale pour dire on a cette déclaration, on s'est engagé, essayons de la respecter. Et je trouve que ce soit pour le cessez-le-feu, pour les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions, le Canada doit parler plus haut et plus fort pour qu'on respecte le droit international humanitaire.
Et donc, comment on peut signer cette pétition?
Elle est disponible sur notre site web, hachicanada.org. Oui, vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre ou faire un don. Toutes les informations sont disponibles sur notre site web. On dépend depuis des décennies là, sur l'appui des Canadiens et on est très, très, très reconnaissant de cette générosité, de cet appui et de ce soutien. À la fois pour le plaidoyer, pour l'engagement, pour la sensibilisation de la population canadienne, que pour notre travail à l'international.
Bien, il y a un des aspects de vos interventions qui est vraiment dans la prévention, ne serait-ce qu'au moins de pouvoir, même si la technologie rend les mines plus difficiles à trouver, vous avez créé, je crois, c'est un paquet de cartes qui permet d'identifier à certains signes, comment les reconnaître, les mines?
Exactement. Alors, c'est des différentes cartes pour offrir peut-être, surtout auprès des enfants, là, parce que souvent, il y a des mines qui ressemblent à des jouets. Tu sais, c'est brillant, c'est fait pour attirer le regard, pour que les enfants ramassent la mine qui ensuite explose dans leurs mains. Et donc, on a des cartes pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est, à quoi ils devraient faire attention, de ne pas toucher, de s'éloigner. Donc, c'est souvent par des jeux ludiques qu'on essaie de travailler avec les enfants. Auprès des adultes, parfois, on fait même des simulations. On crée un environnement, puis on cache des mines dedans et on demande aux gens de rentrer, faire l'expérience de porter le...
Où est Charlie de la mine?
Exactement. Et étonnamment, même si on faisait l'expérience au Canada, parce qu'on le fait parfois au Canada pour sensibiliser les gens, les personnes habillées là, des vêtements très lourds, là, des équipements, des mineurs, ont de la difficulté à identifier qu'est-ce qui est une mine et qu'est-ce qui est un jouet. Donc, on voit vraiment à quel point, en rajoutant à ça les traumatismes de guerre, où les gens ont tout perdu leur repère, à quel point on... C'est dangereux, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, à Gaza, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie des SMS via les téléphones cellulaire mm-hmm. avec des messages pour aider la population à être plus sensibilisée au danger des restes explosifs.
Donc, par texto. On leur explique un peu, c'est des images que vous envoyez par texto ou c'est lié à la campagne?
Oui, non, c'est pas des images. Dans ces cas-là, c'est une technologie très basse parce que les télécommunications sont tellement faibles ou affaiblies finalement.
Oui, c'est ça, ils ont été bombardés.
Alors, c'est des messages qui essaient d'expliquer, d'écrire à quoi ressemblent ces restes, expliquer qu'ils sont présents et de faire très attention. Mais aussi, lorsqu'il y a une annonce d'un bombardement, on explique aussi aux populations comment se mettre en sécurité, où sont les lieux sûrs, si on sait s'il y a des lieux sûrs. Et on a beaucoup parlé de la guerre au niveau des blessures qui peuvent créer des handicaps. Mais il faut dire aussi qu'il y a une population importante de personnes handicapées déjà, en Ukraine ou... en Palestine, et la guerre est très difficile sur eux. C'est sûr que c'est difficile sur tous, mais avec tous ces déplacements, les personnes sont souvent séparées de leurs aides à mobilité, leur technologie qui les assiste dans leur capacité pour se déplacer, pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. On voit que les routes sont complètement détruites. Alors, même s'ils ont une chaise roulante, c'est presque impossible se déplacer. Et même, c'est ceux qui ont besoin d'une routine ou prennent des médicaments, souvent la routine est interrompue, les médicaments sont perdus ou il n'y en a tout simplement plus. Il y a toute une pénurie de médicaments. Donc, c'est vraiment très difficile. Parfois, ils sont séparés de leur famille. Donc, on essaie d'assurer qu'on a une assistance, une réponse qui est également consciente de ces défis-là, qui sont souvent oubliés par les grandes agences.
Comment vous gérez l'approvisionnement? Parce que c'est sûr, là, on parle de grandes agences. Est-ce qu'on, par exemple, la Croix-Rouge?
Oui, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge est présent dans la zone et on travaille avec eux. C'est sûr que la majorité des ONG ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à faire rentrer du matériel. Nous, on a été tellement chanceux.
Ah oui.
Même, c'est sûr que ça a pris 6 semaines que nos camions étaient sur la frontière, mais durant les vacances de Noël, on a fait rentrer 8 camions. 8 camions remplis d'équipements et de matériel qu'on a pu distribuer immédiatement. Puis on est déjà en train de voir du côté de la Jordanie et de l'Égypte comment faire venir d'autres cargaisons pour continuer d'alimenter parce que les besoins sont si criants.
Puis j'entendais que du côté des prothèses, on parlait de bambou tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez peut-être avec des chercheurs pour tenter de pouvoir fabriquer plus rapidement ou à moindre coût ces prothèses?
Bien, c'est sûr qu'on a eu ce projet d'impression 3D qui est une innovation pour nous et qu'on espère qu'on va pouvoir piloter dans d'autres zones et dans d'autres pays. Pour l'instant, c'est dans des camps de réfugiés, principalement en Ouganda. Il y a aussi des projets de recyclage pour voir si des anciennes prothèses du Canada ou de la France peuvent être réutilisées ou adaptées. Mais je crois que c'est préférable d'essayer de trouver des sources un peu plus locales, comme on le faisait autrement. Le fondateur... Jean-Baptiste Richardier, qui est venu nous voir l'année dernière pour justement le 25 ans du traité d'Ottawa, me parlait beaucoup de l'innovation frugale, qu'il appelait. Alors, je pense qu'on continue de chercher des solutions.
Avec un peu de ressources, mais le plus possible d'utilisation.
Exactement, et bien adapté au contexte local.
Il y a une histoire aussi, un article que j'ai lu... dans le Devoir, je crois, d'une Ukrainienne qui vivait en Angleterre et qui est revenue en Ukraine pour contribuer avec des bénévoles de nuit à déminer.
Oui, c'est intéressant. Ça, c'est pas avec Humanité et Inclusion. Quoiqu'on a une Canadienne qui est en Ukraine actuellement, qui contribue, on est plutôt, pour l'instant, en Ukraine... dans l'évaluation et l'éducation sur les risques. Donc, on fait l'identification des terrains qui sont contaminés. Et on pourrait se demander, avec tant de mines, autant de contamination, pourquoi vous agissez pas, pourquoi est-ce que vous commencez pas le déminage? Bien, c'est sûr que le front n'arrête pas de changer.
Ouais.
Donc, on doit à un minimum assurer une certaine sécurité. Et ce qui arrive souvent dans ce contexte de guerre ouverte, si on veut, c'est que la minute qu'on décontamine un territoire, il y a un des partis dans un des groupes armés qui reviennent et qui prennent possession de ce territoire et le récontaminent. Alors, on veut vraiment faire attention et bien cibler nos actions.
Donc, malheureusement, ce type de travail-là se fait quasiment quand le conflit j'ose pas dire assez progressé parce que ça fait pas de sens dire ça, mais quand ça fait quand même quelques années, puis il y a moins de mouvements où on est capable vraiment d'identifier que c'est que l'identification qu'on a fait reste là.
Exactement. Alors, on commence souvent, même lors du conflit, dans des zones humanitaires où on sait qu'on a un contrôle sur le territoire et on doit être capable d'opérer. On ne peut pas avoir des médecins, des enfants, des familles dans une zone humanitaire à risque d'explosion. Donc, on commence avec des lieux plus sûrs et avec le temps, on est capable d'étendre nos actions dans différentes zones.
Donc, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider si on est sensible à l'histoire que vous nous racontez aujourd'hui?
On a toujours besoin du soutien de Québécois, de Canadiens. Mm-hmm. Donc, je vous invite à venir voir notre site web, venir nous visiter dans nos bureaux si vous êtes à Montréal. On est dans la Maison du développement durable. On a besoin de bénévoles pour l'organisation d'événements, d'activités, de sensibilisation. Mm-hmm. Mais aussi, soutenez-nous, inscrivez-vous à notre infolettre. On est activement à la recherche de financement pour nos actions à travers le monde et particulièrement en Ukraine et Gaza actuellement. Et finalement, signez la pétition. La pétition et aidez-nous à rendre responsables nos gouvernements envers leurs engagements internationaux.
On verra si on peut mettre justement la pétition en ligne. Merci beaucoup, Anne Delorme. D'avoir été présente. Donc, je rappelle, vous êtes directrice générale de l'équipe canadienne d'humanité et inclusion. Et j'en profite pour remercier notre équipe Pearson. Merci d'être avec nous cette semaine. Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Nos épisodes sont disponibles sur notre site internet canalm.vuesetvoix.com. Également sur les plateformes de balado-diffusion, Apple Podcasts, Spotify. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux héros anonymes à découvrir. Comme vous voyez, ce sont tous des gens engagés, des gens de cœur qui font tout leur possible pour changer le monde, une action à la fois. Merci beaucoup, chers auditeurs. Passez une excellente semaine. On vous retrouve très bientôt.